Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonjour et merci d'être venus si nombreux. Je suis Céline Magou, je suis enseignante-chercheuse à l'université Jean Jaurès et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec François Delarosière, organisée en marge d'une conférence sur la place des mythes dans la production culturelle contemporaine qui aura lieu du 5 au 7 décembre à l'université Jean Jaurès et à la médiathèque. François Delarosière, vous êtes le directeur artistique de la compagnie La Machine. Et quelques-uns de vos croquis et maquettes sont exposés ici même à la médiathèque Cabanis jusqu'au 19 janvier. Et je précise qu'une visite guidée a lieu tous les samedis à 15h. Les Toulousains vous connaissent bien, d'une part à travers la Halle de la Machine, bien sûr, mais aussi grâce à vos opéras urbains. Le dernier en date, qui a eu lieu en octobre, a attiré 1,2 million de spectateurs. À travers vos machines, vous insufflez une nouvelle vie aux personnages mythologiques. Ariane et Astérian sont devenus des personnages tout à fait familiers à Toulouse. Et vous replacez les mythes au cœur des villes, pas seulement le temps d'un spectacle, mais à demeure. Votre intervention cet après-midi s'appelle « Mythes et machines de ville ». C'est à vous.
Merci. Alors, oui, on a une petite heure à passer ensemble. Il y aura un quart d'heure qui sera dédié à un échange. Je vais faire à peu près 45 minutes d'exposé. Et je vais essayer de vous emmener dans mon univers et cet univers un peu particulier qui s'attache et qui s'intéresse notamment aux mythes et à la mythologie. Un petit rappel juste sur ce qu'est la compagnie La Machine. C'est On est à peu près une centaine de salariés, enfin 60 salariés permanents, 200 à 250 intermittents du spectacle, répartis sur deux sites, un à Toulouse avec la Halle de la Machine, un à Nantes avec notre atelier de conception et de création et de construction, et un autre atelier à l'usine, à Tournefeuille, hein, dans la région. Alors, le travail que je développe et que développe la compagnie dans l'espace public, un espace accessible à tous, s'intéresse d'abord au théâtre, et à l'architecture, mais il a petit à petit, du fait d'intervenir dans l'espace public, dévié sur l'urbanisme. La recherche que l'on mène s'intéresse avant tout au mouvement. Pourquoi le mouvement m'intéresse ? Parce que le mouvement, finalement, c'est l'expression de la vie, le mouvement incarne la vie. Et chez nous, le mouvement n'est pas simplement le mouvement de nos machines, mais c'est la façon dont on se met mentalement en mouvement, en équipe, en mouvement, et dont le mouvement est intégré philosophiquement et éthiquement dans l'ensemble du processus, depuis les premiers dessins jusqu'à la construction de ces machines et leur usage dans l'espace public. Mon inspiration principale, c'est le vivant. Et c'est à partir de là que je vais en venir au mythe. J'ai longtemps dessiné des animaux. J'en ai dessiné beaucoup parce que au-delà des grandes machines comme le grand éléphant de l'île de Nantes dont je vais parler, on a aussi construit plusieurs manèges, 5 manèges. Et dans ces manèges sont peuplés d'un bestiaire. Et donc j'ai dessiné peut-être 200 à 300 animaux anthropomorphiques auxquels on donne toujours un petit peu on prête un petit peu un sentiment et une attitude humaine. Et ma source d'inspiration quand je travaille, c'est vraiment le vivant, la nature végétale, la nature animale. Pour moi, le vivant, c'est la plus merveilleuse, la plus extraordinaire des sources d'inspiration parce qu'elle est inépuisable, infinie. Et en plus, l'homme en découvre chaque fois un peu plus, parfois dans la canopée, dans l'espace, enfin le vivant dans l'espace, pas encore, mais dans les grandes profondeurs sous-marines. Alors, Et donc, c'est une inspiration, mais avant de construire une machine pour le vivant, il faut l'observer. Donc, aller chercher dans la biologie, l'anatomie, le comportement animal, ce qui va nous émouvoir le plus en observant la nature, et comment on va interpréter cette étude, on va dire, et comment on va en faire une machine. Alors là, c'était dans les années 2000, Jean-Luc Courcoult, qui était metteur en scène d'une compagnie avec qui je collaborais à l'époque, Royal Deluxe, me demande de dessiner une girafe qui devait, pour l'an 2000, descendre, deux portes s'ouvraient sous l'Arc de Triomphe et elles devaient, deux girafes devaient descendre au galop les Champs-Élysées. Et j'avais comme cahier des charges que la girafe puisse se coucher, se lever, trotter, galoper, uriner, déféquer, bouger son cou et sa tête, évidemment, ouvrir les paupières, fermer les paupières, bouger les yeux, bouger la langue, tirer la langue, éternuer, bouger les oreilles. Vous savez que les oreilles des girafes, elles sont indépendantes. C'est très particulier la façon. Alors, avant de faire mon dessin, qui est finalement qui arrive en fin d'études et d'expertise, j'ai dû retrouver le synoptique de la marche de la girafe. Comment elle se déplace ? C'est-à-dire de combien les membres vont se déplacer, à quel niveau ? Alors, comme je ne trouvais pas dans les bibliothèques à l'époque, Internet était arrivé à peine, je ne trouvais pas de synoptique de la marche. Personne n'avait étudié ça, même pas Muybridge, qui est quelqu'un qui, à l'époque, au début du siècle, a photographié les déplacements. Je suis allé au zoo, dans le centre de la France, et puis j'ai eu la chance de voir une jeune girafe partir au galop et marcher, et je l'ai filmée. Et après, j'ai pris mon film VHS, à l'époque, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent encore ce format, mais je mets la cassette et puis sur un vieux téléviseur avec un calque et le bouton pause, je prends chaque phase du déplacement et j'arrive à finalement construire et fabriquer mon synoptique, ce qui va être très précieux pour les constructeurs et les constructrices qui vont pouvoir analyser la marche et avoir les amplitudes et les mouvements. On remarque là que dans le galop, parce que là c'est le synoptique du galop, à un moment la girafe bascule sur une seule patte. Elle n'a plus qu'une patte au sol et tout le reste est en l'air. Voilà. Alors, du coup, on a construit la girafe. Et il ne s'agissait pas de construire une girafe comme la girafe existe. Parce que personne n'arrivera jamais à construire une girafe comme la girafe existe. Elle est tellement magnifique, tellement belle, gracieuse. Elle dépasse largement ce que tout homme pourrait fabriquer. Donc il s'agit d'interpréter la grâce, la folie de la girafe pour fabriquer une machine. Et notamment, on ne va pas faire une girafe poilue, on ne va pas faire un gros doudou. Quoi. Ça sera, en tant que décorateur, ça n'aura aucun intérêt. Donc il faut prendre des décisions comme ça. Et effectivement, comment on a fait les tâches de la girafe ? On a fait les tâches de la girafe en brûlant le bois. On a pyrogravé en faisant des grandes empreintes et c'est comme ça qu'on a teinté en fait la girafe qui est en bois et qui est en acier. Alors là, vous avez la girafe terminée qui est chevauchée par le petit géant à Nantes et on la voit d'ailleurs éternuer. Et à l'issue, une fois que j'avais construit la girafe, un an après, je replonge dans des bouquins sur la girafe et je me rends compte que très étonnamment, la machine qu'on a construite imite la nature sans qu'on l'ait vraiment voulu. La girafe, vous savez, a un cœur, non, vous le savez peut-être pas, a un cœur très puissant, puisqu'il faut envoyer le sang à 4 mètres de hauteur jusqu'au cerveau, quoi. Mais elle a une particularité physiologique, et c'est unique au monde, elle a à côté du cœur une réserve de sang, un réservoir, ce qu'on n'a pas à nous, tout est contenu dans le cœur. Parce qu'elle puise le sang, le cœur ne serait pas assez contenant pour gérer le flux sur une telle distance. Et donc, le cœur fonctionne, puise le sang et l'envoie vers la tête. Mais imaginez que la girafe est en train de manger les feuilles d'une haute branche et la girafe va tout d'un coup avoir envie de boire. Elle va baisser la tête et sa tête va passer de 6 mètres de hauteur à zéro. Et donc, le flux sanguin avec la pesanteur, normalement, ferait exploser les vaisseaux du cerveau de la girafe. Heureusement, les girafes sont équipées d'une petite valve juste dans l'artère principale, qui dévie l'excédent de pression et régule la pression artérielle dans le cerveau. Alors, je regardais notre machine, et nous, comment elle fonctionne, notre machine ? On a un moteur très puissant qui fait tourner des pompes hydrauliques, et la pompe hydraulique, on va dire que c'est le cœur de la girafe, et à côté, on a un réservoir d'huile, le même que celui de la girafe dans la nature. Et on pompe cette huile, et on l'envoie à 300 bars dans l'ensemble de la machine. Mais la girafe, pour aller manger dans les feuilles d'un platane du centre-ville de la ville de Nantes, par exemple, a besoin de mouvements très légers. Elle va utiliser 20 bars à peu près sur les 300 bars envoyés. Et nos distributeurs, exactement comme la girafe est constituée, ont une petite valve qui permet d'utiliser les 20 bars, mais de renvoyer l'excédent de pression jusqu'au réservoir. Voilà. Donc, sans le vouloir et en imitant le mouvement, on a recréé exactement le système et le fonctionnement biologique de la girafe. Alors, à chaque fois que je dessine une machine, là, vous avez le crocodile, le Crocodilus mécanicus, crocodile du Nil de La Roche-sur-Yon. À chaque fois qu'on construit une machine, il faut comme ça étudier l'animal, son comportement. Et ces machines qui pèsent parfois 50 tonnes ou 30 ou 20 tonnes, elles se font pas seules, évidemment. C'est pas moi, avec mes petites mains, qui veulent la construire. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça, je tiens vraiment à en parler parce que ce qui m'intéresse, moi, dans le travail que je fais, c'est pas le résultat. Le résultat, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place un processus de travail vertueux où chaque constructrice, chaque constructeur, chaque concepteur, avec son savoir-faire, sa sensibilité, va enrichir le projet et l'emmener là où peut-être moi, je n'aurais pas su l'emmener si j'avais fait seul l'aventure. Et c'est cette accumulation de sensibilité, de savoir-faire et de compétences, c'est aussi le plaisir dans le travail, qui va créer la luxuriance et qui va faire que nos machines, quoi qu'il arrive, parce que le chantier est jubilatoire, est enrichissant pour tout le monde, va être réussi. Donc ce qui est bon signe quand on construit une machine, c'est quand on est surpris nous-mêmes par ce qu'on est en train de produire. Alors là, on va commencer à parler de mythes, des mythologies. Là, vous avez l'araignée géante qui est née en 2018 et qui est apparue un jour sur la façade d'un immeuble près de la gare centrale de Liverpool. Liverpool était alors capitale culturelle européenne et personne n'était au courant que ça devait arriver. Alors on va regarder un petit film qui montre l'arrivée de l'araignée à Liverpool, s'il veut bien démarrer. Voilà, c'est bon. Alors ce qui est assez drôle, c'est que la BBC était venue filmer à l'atelier et quand l'araignée dans la nuit, on installe l'araignée dans la nuit. Et quand les habitants se réveillent, il y a un gros mouvement de panique quand même, et notamment les arachnophobes, parce que je ne savais pas qu'il y avait des associations d'arachnophobes anglaises, de Liverpool, qui ont dit ben, on ne peut pas sortir dans la ville, on ne peut pas aller travailler parce qu'il y a des araignées géantes. Et ce qui était intéressant, c'est que les psychiatres et les chercheurs ont répondu dans le journal, dans le Times, qu'ils ne craignaient rien en fait, et que au contraire, la dimension pouvait nous permettre d'apprivoiser l'objet et de s'y attacher, ou au moins de régler un petit peu le problème de la phobie. Alors là, ce qu'on raconte, c'est assez simple. Comme c'était secret, les habitants, tu peux mettre un tout petit peu plus fort le son, s'il te plaît. Les habitants découvrent l'araignée accrochée, et donc ils sont quand même un peu paniqués. Et ils font appel à la compagnie de la machine, qui sont des chercheurs spécialistes des mécaniques savantes, ce type de grandes araignées. Et alors ces chercheurs vont capturer l'araignée, l'emmener dans une base de recherche et faire des tests jusqu'au moment où ils jouent de la musique et ça réveille l'araignée. Alors dans les journaux, l'araignée va passer 4 jours dans la ville. Et dès qu'elle est réveillée, elle commence ses déplacements. Mais on organise ces déplacements et on dirige l'araignée grâce à ce qu'on appelle la machine à effet, que vous connaissez peut-être, nos gros nuages de fumée, le feu, des tempêtes de papier ou de feuilles mortes. Et l'araignée va évoluer pendant 4 jours dans la ville et chaque matin, un représentant des chercheurs faisait une conférence de presse pour expliquer où allait passer l'araignée, et si son comportement était plutôt rassurant ou plutôt violent ou dangereux. Et le canular était suivi comme ça au jour le jour par le public. Alors, ce qui est intéressant de voir quand même dans un tableau comme ça, là on est en face de l'immeuble où on a annoncé le naufrage du Titanic, c'est comment la ville devient une espèce de théâtre, de décor de théâtre incroyable, un paysage. Alors là, on est samedi, l'araignée, alors on l'endort avec de la neige, on la met en hibernation fulgurante. C'est comme ça qu'on arrive à endormir l'araignée. Et là, on est le vendredi soir, et toute la nuit, il a neigé sur l'araignée, puis on va la réveiller, puis on va lui ouvrir les portes du centre-ville. Ce qui pose problème, parce qu'il y avait plusieurs mariages ce jour-là à la mairie, et quand on est passé devant... Non, mais vous rigolez, mais c'est des vrais problèmes sur l'espace public. Donc il a fallu... Du coup, les mariés étaient contents, parce qu'ils ont vu passer l'araignée géante à leurs pieds. Donc ça, c'était vraiment le premier grand spectacle de la compagnie à la machine. Et on annonce aux habitants de Liverpool. D'ailleurs, Liverpool était complètement dépassé par l'afflux public. Il y a eu à peu près 700 à 800 000 personnes. Et dans les rues étroites du centre-ville, avec nos musiciens sur une salle, on est devant la mairie là. Bah, c'était compliqué quand même d'accéder au centre-ville. Donc, au dernier moment, il y a des hélicoptères qui sont mis à tourner autour de la ville. Et puis, de jour en jour, les autorités ont su prendre un peu les mesures nécessaires pour éviter trop de problèmes. Alors là, on est dimanche et il est temps que l'araignée s'en aille parce que ça fait 4 jours quand même qu'elle met un beau bazar dans la ville. Et à Liverpool, je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y a pas de pont sur la rivière. Ce sont que des tunnels autoroutiers qui passent sous Liverpool. Et là, on fait un immense piège devant un tunnel autoroutier à l'araignée avec des effets, de l'eau, la fumée. Et on oblige l'araignée à disparaître dans un des tunnels, dans un immense nuage de fumée. Voilà. Et pour faire cette scène, on a rasé un rond-point, le rond-point qui est en sortie de ce tunnel. Voilà, l'araignée disparaît dans la fumée et elle y reste en fait. C'est-à-dire que les habitants de Liverpool n'ont toujours pas vu l'araignée ressortir, et dans leur tête, ils ont une araignée sous terre dans la ville. Et donc, à l'issue, un an plus tard, à Yokohama, deux spécimens débarquent à Yokohama. Une araignée qui flotte au milieu du port, prise dans les filets, et une autre qui va apparaître plus tard sur le port de Yokohama. Mais ce film est un peu long, donc je vais continuer un peu. Alors, c'est la première araignée, c'est l'araignée 1, inspirée de la tarentule. Et la deuxième araignée, c'est l'araignée 2, Kumoni, en japonais, qui est inspirée de la veuve noire. Et l'araignée 2 est née au Japon et a été manipulée à la fois par une équipe française et une équipe japonaise. Ce qui est intéressant, c'est dans cette araignée, alors on l'a vu apparaître plus tard, sur la cathédrale de Reims, accrochée à la cathédrale. L'abbé Guérin, qui gère la cathédrale, voyait l'araignée de sa fenêtre. Et à Reims, on a inauguré le tramway récent, naissant à l'époque. Quand on fait un tramway, là, celui-là, il n'a pas de caténaire, c'est vraiment pratique. On a révélé tous les aménagements grâce à l'araignée. À Ottawa, il est apparu sur la cathédrale d'Ottawa. Et on est à côté de l'araignée de Louise Bourgeois. Et ici, elle apparaît à Calais, sur le beffroi de Calais. Elle est apparue 2 fois à Calais. Voilà. Donc on a retrouvé cette araignée géante un petit peu partout. Et aujourd'hui, elle incarne Ariane, quand on joue à Toulouse, la demi-sœur d'Astérion, celle qui va un peu sauver Astérion à chaque coup. Parce que finalement, on se rend compte qu'il est assez faible, Astérion. Alors... Les mythes m'intéressent, pourquoi ? Alors, je reparlerai un petit peu de mon rapport au mythe, mais là, c'est le mythe du voyage. On a cet engin volant qui est chargé de végétaux et qui atterrit dans la nuit dans une ville. Et les habitants ouvrent la fenêtre et voient cette espèce d'installation avec du végétal, des tentes militaires, 11 chercheurs en tenue d'hélicoptère qui sont en train de s'affairer à faire des expériences. Ces chercheurs ont réussi à utiliser l'énergie électrique qui circule dans les végétaux et à charger des batteries, ce qui rend l'engin autonome en électricité. Ce qui fait que l'engin peut rester 6 mois en l'air. Alors le public vient, il pose cette question, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est une exposition ? Non, on atterrit cette nuit dans des conditions difficiles. Il faisait 20 km/h de vent, donc c'était un peu dangereux pour le beffroi. Mais non, mais ça ne vole pas, ça. Si, ça vole parce que les ballons se gonflent, les hélices tournent à 1200 tours minute, etc. Et à ce moment-là, la question, c'est mais c'est incroyable, vous venez d'où ? Et là, c'est parti. Une fois que le public y croit, à peu près, quoi, ou veut bien y croire, on va dire, l'histoire commence. Et c'est du théâtre d'impro qui se joue en direct entre les chercheurs et le public, à la demande, en fait, et il faut réagir aux questions. La seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on sait d'où on vient, pour combien de temps on est là et où on va. Le reste, c'est vraiment de l'impro. Alors, je vais vous parler un peu d'un des... J'ai fait beaucoup de projets qu'on retrouve dans l'ouvrage qui s'appelle « Chimères et autres animaux fantastiques », là, qui vient d'être édité chez Actes Sud. Et là, on est à Pornic. Vous connaissez peut-être Pornic. C'est une ville de Bretagne avec un vieux port. Un vieux port. Le port moderne est parti et une zone très touristique, très habitée, et une zone, et une partie du port beaucoup moins touristique, pardon, beaucoup moins touristique et beaucoup moins habitée. Le maire me demande de créer une passerelle piétonne entre ces deux points pour faire en sorte que les habitants puissent faire le tour. Pourquoi ? Ben parce que ça sature ici et que ça vaudrait vraiment le coup de faire fonctionner aussi cette partie du port, notamment pendant la saison estivale. Alors, je vais visiter le lieu et je me rends compte qu'il y avait une cale et qu'à l'époque, il y avait un passeur en barre qui faisait passer, dont le petit-fils était encore vivant, que j'ai pu rencontrer. Il faisait passer les passants en barque. Alors, j'ai d'abord pensé à un pont. Mais bon, il y en a qui l'ont déjà fait. Celui-là, il était pas mal, hein, parce qu'il y avait un pylône central et puis le pont pouvait tourner pour laisser passer les bateaux dans le port. Ensuite, je me suis dit, le pont, c'est un peu trop classique. Alors, j'ai cherché un animal d'eau. J'ai retrouvé cette espèce de buffle thaïlandais avec des cornes absolument immenses. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment incroyable à voir. Et là, je me suis un peu fait plaisir, ce qui n'a pas fait plaisir au maire, je vous dis. Parce que bon, on a les deux côtés du port, et là, quand même, l'animal fait 35 mètres de long. Mais on peut déployer une petite passerelle, monter sur la machine, traverser son corps, ou aller sur une terrasse. Alors ça se fait à marée basse, parce que l'eau, elle est entre ça et zéro, on va dire. Donc il y a toute une période où si on fait un radier, la machine peut s'installer, et c'est à la fois un belvédère sur le port, et avec une vue incroyable, et à la fois un pont. Bon, je ne vous cache pas que le buffle fait à peu près trois fois la taille des maisons, qu'on a un château, le château de Pornic, qui est magnifique, d'ailleurs l'historique château de Barbe Bleue, et que pour l'ABF, l'architecte des monuments historiques, c'est hors de question d'avoir une machine de cette taille-là dans le port de Pornic. Alors, j'ai cherché une autre idée. J'ai imaginé, parce que Pornic, c'est la baie de Bourgneuf, et c'est un endroit qui a été vraiment le cœur du trafic du sel à une époque, avec beaucoup de denrées qui arrivaient et qui rentraient en Bretagne par le port de Pornic et la baie de Bourgneuf, et notamment toutes les denrées qui venaient du commerce triangulaire, etc. Et je me suis dit qu'un des bateaux s'est fracassé sur la berge, dans les récifs, et dans la cargaison, on a retrouvé un coffre. Et dans ce coffre, il y avait trois œufs. Et notamment l'œuf d'un crocodile géant. Alors, les œufs ont éclos, et puis on les a perdus de vue. Mais parfois, il y avait quelques signes qui nous montraient quand même qu'il se passait des choses bizarres dans la baie de Bourgneuf. Et un jour, arrive à Pornic un crocodile géant. Alors, ça n'a toujours pas plu au maire, hein, je vous rassure. Ce crocodile fait 35 mètres de long, il descend par le radier à marée basse et il s'installe pour prendre position de passerelle et de pont pour les vélos et pour les piétons. Ça peut faire un pont sympa quand même. Ça, si vous le financez, j'aimerais bien le faire un jour. Hein. Et donc, on marche comme ça sur un platelage qui est sur son dos. Et après, dès que la marée commence à monter, ça c'est immersible à peu près jusque-là, mais on évite trop de courant, le crocodile fait demi-tour et sort. Donc on a bien l'accès, le pavillon qui permet d'embarquer, le passage et ici les plateformes qui permettent d'être sur le dos du crocodile et de circuler. Donc ça aussi c'était trop gros pour Pornic parce que les crocodiles faisaient la taille des maisons les plus hautes. Donc il a fallu que je fasse plus petit et là j'ai créé un crocodile flottant parce qu'il y avait un passeur qui passait en plate comme ça les habitants de Pornic. Donc ce crocodile, il est équipé de 4 flotteurs. Il peut embarquer 9 ou 10 passagers. Et lui, par contre, il peut flotter. Donc à marée basse ou à marée haute, il pourra faire traverser le public. Voilà. Donc il y avait le crocodile donc, qui était clos de l'œuf, hein, qui était dans le château. Et puis il y a un crabe multicolore aussi qui se balade sur le port. Et de l'autre côté, il y avait aussi un autre crocodile, le crocodile noir, le crocodile blanc. Et ça, c'est le projet que j'avais fait pour le maire. Mais le maire a perdu les élections et le projet s'est pas fait. Alors, un autre projet qui met en scène le mythe et la mythologie, et là, ça m'a passionné, ça se passe à Cardiff, dans le Pays de Galles. Un club de rugby assez fameux. Et pour Cardiff, donc, j'ai dessiné un dragon vraiment à l'image du dragon traditionnel. Parce qu'il y a une légende autour de ce dragon, c'est le dragon rouge et le dragon blanc. L'un représente les Anglais, l'autre le Pays de Galles. Et ils se battent et finalement le dragon rouge arrive à chasser le dragon blanc. Vous voyez un petit peu la symbolique hein, à l'époque. Et donc, j'ai dessiné comme ça un dragon de Cardiff. Alors, ça a été fait à 15 ans. Le projet a été plus ou moins abandonné à cause notamment de l'instabilité politique. Et puis, au bout de 10 ans, on est revenu nous voir et on est retourné faire une étude. C'est un dragon de vraiment très grande dimension. Hein, voyez l'échelle. Voilà. Avec ses écailles. Et il fallait, parce que j'avais dessiné au départ un autre dragon, il fallait vraiment pour les habitants de Cardiff et pour les politiques qu'on ait vraiment la queue en tire-bouchon, là, comme un dragon sur le... Donc, quelque part, alors, c'est des mythes. C'est vrai, quand on touche au mythe, il faut toujours se rapprocher quand même de la réalité. Et ce dragon, donc, il ne va pas arriver comme ça, il fallait lui faire une maison. Alors, j'ai étudié certains œufs que protègent certaines araignées par une espèce de rambarde comme ça de toile. Et j'ai dessiné, j'ai étudié comme ça un œuf qui serait protégé par des espèces de pics comme ça. Et finalement, parmi les rushs, quand je travaille, je fais souvent pas mal de petits croquis comme ça, avec des dimensions, de hauteur. Et ensuite, je choisis celui qui m'intéresse le plus, en l'occurrence, c'est celui-là, pour l'agrandir et le faire en plus grand. Et au final, ça donne ce dessin. Alors, ça, c'est l'œuf du dragon de Cardiff, mais dans lequel il va pouvoir rentrer. Et ça va être aussi son lieu d'entretien. Alors, ça fait 70 mètres de hauteur. On a ça, c'est du béton. Ici, l'œuf est en zinc. On a des passerelles circulaires qui passent des espèces de tiges en béton sur lesquelles on a des petits ascensionneurs, des ascenseurs qui permettent de monter et descendre et de rejoindre les étages. Et on a un petit restaurant ici et un jardin un peu suspendu sur les différents niveaux. Et le dragon peut rentrer, descendre sur une passerelle, après partir sur la baie, parce qu'à Cardiff, on a une baie absolument extraordinaire. Cardiff, c'est la naissance des mouvements boursiers et du trading. Voilà, là, c'est l'œuf ouvert, un dessin de mauvaise résolution. Mais on voit le dragon à l'intérieur, à l'échelle. On peut en profiter depuis différentes coursives, rentrer dans l'œuf ou sortir ou faire le tour. Voilà. Pour ceux qui connaissent Cardiff, qui ne connaissent pas, pardon, il y a la baie de Cardiff qui est avec un barrage. Donc, on régule l'entrée et la sortie de l'eau. Le nid du dragon devait être à peu près dans cette zone où se développait un village du sport et touristique. Et le problème, c'était de relier la gare et le centre-ville de Cardiff à la baie, qui est le lieu touristique, avec une zone qui est un petit peu à l'abandon et qui est très industrielle. Donc, on a utilisé les voies ferrées, les grands bassins portuaires et un espèce de parc pour créer des nouvelles machines qui pouvaient rapprocher le centre-ville de la baie. Et là, c'est pour ça qu'on a un rhinocéros qui transporte une quinzaine de personnes, qui arpente comme ça du centre-ville à la baie. On a un émeu. Alors, on voit bien qu'on est sur l'espace public. Hein. Là, je stipule le train, les piétons, les vélos, l'émeu, les piétons, une famille, la voiture et le bus. Voilà. Bon, le projet, c'est pas fait. Par contre, le dragon qu'on a réalisé, c'est le dragon de Calais. Alors, peut-être avant de parler du dragon de Calais, c'est pourquoi le mythe m'intéresse. J'ai longtemps dessiné donc des animaux, et à un moment, j'ai dû dessiner un centaure pour les Jeux équestres de Caen, les Jeux équestres mondiaux qui se jouaient pour la première fois en France, en Normandie, à Caen. Et là, j'ai proposé pour le spectacle inaugural de fabriquer un centaure qui ouvrirait les Jeux avec 250 chevaux et attelages qui l'accompagneraient. Donc ce centaure, on le verrait endormi près du Mont-Saint-Michel et il irait chercher son sac à dos de voyage qui ressemble au Mont-Saint-Michel, qui est perdu dans le château, et, etc., etc. Et le projet ne s'est pas fait, faute de financement. Et j'ai été très frustré de ne pas faire ce centaure. Et c'est un peu pour ça que vous avez un minotaure aujourd'hui. Voilà, parce que je voulais faire un quadrupède, mi-humain, mi-animal. Le dragon de Calais, c'est tout autre chose.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Juste avant de vous montrer la vidéo, Longma, que vous connaissez peut-être, c'est un cheval-dragon chinois qui vit en Chine, a fait un spectacle à Calais, puis la maire de Calais, Natacha Bouchard, est tombée sous le charme de ces machines géantes et m'a demandé de dessiner pour Calais une machine géante qui vivrait à Calais et qui s'installerait durablement à Calais. Et en faisant l'étude, à vélo, la nuit, le jour, je cherchais, dans l'histoire de Calais, dans ses légendes, qu'est-ce qui pouvait nous raccrocher à un animal ou à un objet. à part la piraterie et quelques petits lapins des dunes ou insectes qui vivent dans les dunes, à Calais, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut se raccrocher. On serait dans le Gévaudan, ce serait la bête du Gévaudan, par exemple. Mais là, à Calais, il n'y avait rien. Et à force de me promener à Calais, j'ai compris que Calais, c'était intéressant, c'était que c'était une ville d'eau, parce qu'ils gèrent l'eau, en fait. L'eau qui vient de la terre se vide dans la mer, ils régulent, ils bloquent pour éviter l'eau de la mer, à l'eau de la mer de rentrer dans les terres. Il y a souvent du vent. L'eau est présente aussi par la Manche, hein, près de l'Angleterre. Et je me suis dit, il faut trouver un animal qui va incarner tous ces éléments pour vraiment que cet animal ressemble à Calais. Et donc, le dragon, c'était bienvenu parce que le dragon est fait de différentes entités. Un petit peu de chameau, un petit peu de rhinocéros, un petit peu de chauve-souris, des écailles de poisson, des serres d'aigle. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le dragon de Calais. Alors là, on a raconté une histoire. Quand Calais a grandi son port, c'est un des plus grands chantiers d'Europe. Les pelleteuses, en travaillant dans le port, ont décelé une pierre qui était au fond de la mer. Une pierre sacrée, mais c'est une pierre qui rend étanche le monde du dessous et le monde du dessus. Et dessous, on a les titans et les géants qui se promènent. Et en décelant cette pierre, un dragon s'est échappé et débarque et arrive dans notre monde. Et un vendredi matin, du mois de novembre 2019, les Calaisiens se réveillent avec un dragon sur la plage, échoué sur le sable. Alors je vous dis pas comment ils ont flippé, les Calaisiens. Ils ont eu peur. Un étranger qui arrive, en plus un dragon géant, qui crache le feu. Alors dans un premier temps, ce qu'ont fait les Calaisiens, qui étaient incarnés par nos équipes de comédiens, on va dire, ils ont cherché à bloquer l'avance et les déplacements du dragon en mettant des camions au milieu, des pelleteuses, en faisant du feu, en mettant de l'eau. Mais le dragon était plus fort. Chaque fois, il déjouait les tours et il s'enfonçait un petit peu plus dans la ville. Jusqu'au deuxième jour au soir, ils se rendent compte en fait que le dragon est plutôt bienveillant, qu'il est curieux envers les habitants et puis qu'il aime bien la musique. Alors ils décident de changer de stratégie, de ne pas lutter contre lui, mais au contraire de le charmer en faisant venir un ténor et en lui jouant de la musique. Alors du coup le dragon effectivement va rentrer dans le jeu, va être charmé au point de finalement s'installer durablement à Calais et de rester à vie à Calais. Aujourd'hui, le dragon arpente la plage de Calais fraîchement rénovée, transportant 50 personnes sur son dos qui peuvent monter par sa queue et se réveiller. Alors le spectacle a duré 4 jours. Alors, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est comment ces machines peuvent interagir avec les habitants. Vous le savez, si vous êtes toulousain avec Astérion. Non, ça a l'air facile, mais c'est délicat de faire une scène comme ça. On a 75 tonnes de matière en mouvement. Et d'ailleurs, le ténor, à un moment, sur une nacelle, caresse le nez du dragon, mais c'est assez risqué. Là, on est le jour du final et c'est 100 000 personnes. La ville, c'est 60 000 habitants. 100 000 personnes qui viennent voir ce final qui va être le moment où le dragon va décider de rester durablement et s'installer dans son antre, qui est la maison du dragon. Alors aujourd'hui, c'est le dragon continue. Vous pouvez aller à Calais, faire un tour de dragon sur la plage. Elle est très belle, cette plage, complètement refaite, avec le deuxième plus grand skatepark de France. Et on attend en 2025 l'arrivée d'un varan de voyage qui va venir rejoindre le dragon. Le varan de voyage, il fait 2,50 m de large, il peut embarquer 25 personnes, il est beaucoup plus mobile que le dragon, et il pourra se faufiler dans les quartiers, dans les rues où le dragon ne va pas, et croiser les mouvements du dragon. Il va arriver lors d'un grand spectacle à Calais en 2025, au mois de novembre. Plus tard, on va avoir des iguanes de plus petite taille pour 5 personnes, des iguanes de famille, avec un guide assermenté, historien mais conducteur d'iguanes électriques, qui permettra de faire des visites autour des vieux forts. Parce qu'à Calais, on a le fort Niollet, le fort Risemont, qui sont des forts magnifiques et qui ne servent pas pour le touriste. Il s'y passe rien et c'est jamais ouvert. Et quand on a ce trésor dans une ville, il faut absolument l'activer. Et mon idée, c'est de créer des colonies d'iguanes qui vont, comme ça, occuper l'espace sur lequel on peut monter, sur les chemins de ronde, et faire des visites historiques. Alors, à terme, Calais va être un peu envahi par les sauriens et les iguanes. Ça, c'est dans 10 ou 20 ans. On a le dragon de Calais. notre varan de voyage, probablement un deuxième, et les iguanes qui seront au Forniolet et au Forisban, et puis un grand iguane à Saint-Pierre, qui est l'endroit où il y avait les filatures de dentelles. Qui était alors tout ça, c'est des villes qui étaient autour de Calais, mais aujourd'hui, les habitants ont du mal à faire partie de la même ville. On est de Saint-Pierre ou de Niolet, mais on fait pas partie de Calais. Donc le but de Natacha Bouchard, c'est d'unifier l'image de Calais pour tous les habitants, et aussi de faire en sorte qu'on puisse changer l'image de Calais, parce que ce que renvoient les médias est une image monotache qui entache l'image de Calais, parce que ça ne passe que par la crise migratoire. Un projet qui s'est passé en Chine en 2014, il y a 10 ans. On a construit Longma pour un riche chinois et l'ambassade de France. Longma, cheval-dragon, littéralement en chinois, pour le 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine, c'est-à-dire le moment où Mao et le général de Gaulle se retrouvent et on recommence à faire commerce avec la Chine après sa longue période communiste. Alors, là, il s'agit... J'avais déjà dessiné un dragon pour la Chine qui n'avait pas fonctionné, qui n'avait pas été bien accueilli par les Chinois parce qu'ils s'affranchissaient des codes traditionnels. Donc, avec Longma, j'ai bien fait attention de respecter le nombre d'écailles, la couleur et le nombre d'animaux qui composent le dragon. Et du coup, celui-là a été bien accepté par les Chinois. Ils l'adorent au point d'en faire un tas de copies, un peu ratées toujours, mais quand même... Alors là, on raconte une histoire aux Chinois qui est inspirée du mythe de la déesse Nuwa. Tout le monde connaît. Hein. Nuwa, c'est un peu une superwoman chinoise. C'est la fille des dieux à qui on a donné la terre. Mais la terre n'est pas habitée. Elle s'ennuie un peu, alors elle crée les hommes en modelant des statuettes d'argile. Et puis, comme il n'y a pas assez d'hommes, elle leur donne la possibilité de se reproduire et puis elle crée avec des gouttelettes les pauvres en fait. Hein. Les riches, c'est ceux qui ont été modelés et la caste d'en dessous. Elle est connue pour avoir sauvé l'humanité au moment où les dieux se sont battus. Et en se battant, ils ont créé un trou dans le ciel. La terre était en proie au déluge, les bêtes féroces dévoraient les hommes, les épidémies. Et Nuwa a fait brûler des réseaux, a créé des digues et a sauvé l'humanité et a refermé le trou dans le ciel en récupérant la patte d'une tortue géante et en étayant le ciel qui est en train de tomber. Mais elle n'a pas tout à fait réussi à étayer, c'est pour ça que la Chine penche vers l'ouest. Bon, c'est une explication qui n'était pas très scientifique. Mais... Donc, je suis parti du principe que le trou dans le ciel s'était de nouveau ouvert et que... Nuwa, qui observe la Terre depuis le 7e étage du ciel, envoie son émissaire, Longma, pour aller régler le problème en faisant allusion à la pollution à Pékin. Et comme le trou est ouvert, et bien une araignée maléfique en profite pour s'immiscer, venir essayer d'empêcher Longma d'accomplir sa tâche. Alors ils sont en lutte pendant 3-4 jours. J'avais prévu dans mon scénario initial que l'araignée piquait Longma, mais que de ce venin, Longma trouvait la force de refermer le trou dans le ciel. Et le ministère de la censure m'a interdit de le faire, parce que Longma incarnait les Chinois, en fait. Donc, le président avait dit « Ayez l'esprit du cheval-dragon ». Alors j'ai dû changer mon scénario, qui était d'ailleurs plus compréhensible que le premier. L'araignée était prise au piège était piégée par sa propre tempête de neige, mais ému par sa bravoure, Longma est venu sauver l'araignée, et ensemble, ils ont fermé, clôturé le trou dans le ciel. Donc là, c'était vraiment un mythe chinois, un petit peu réinventé, réadapté. La scène faisait 300 mètres de long. Et ça a été vraiment un très grand succès, puisque toutes les chaînes officielles ont montré le spectacle et toute la Chine a entendu parler de ce projet. Et comme c'est la Chine c'est le riche chinois qui a un peu tout payé et Pékin, finalement, la Chine a permis à la France de lui faire un cadeau. Voilà. Alors, dans la famille des dragons, alors tout ça, on le retrouve dans l'ouvrage La Chimère et autres animaux fantastiques. Là, on est à Ottawa, donc capitale du Canada. Et on est allé fêter l'anniversaire des 150 ans de la Confédération canadienne à Ottawa, qui est une ville peu touristique, mais par rapport à Toronto ou Montréal, est peu connue, mais qui est quand même la capitale. Alors, on a commencé par faire un grand spectacle qui mettait en scène le cheval-dragon, Longma, et l'araignée géante. Et là, ça a bien fonctionné. Il y a eu 800 000 visiteurs pour le 150e. Et c'est là que l'araignée apparaissait sur le... Alors, ce sont les Premières Nations, hein, le doyen des Premières Nations qui a réveillé Longuemain avec le maire d'Ottawa. C'est cette femme. Parce que c'est toujours... Il y a une tradition en Chine qui sait peindre les yeux du dragon. C'est pour le nouvel an, on met le dernier coup de vernis sur les yeux avant que le dragon se réveille. Donc c'est un rituel qu'on a utilisé, qu'on a adapté au spectacle. Si on la voit, c'est un grand bonheur. Donc, et Longuemain voyage comme ça un petit peu dans le monde et pas mal de l'île de France. Alors, après le spectacle qui était une grande réussite, il me reste à peu près 5 minutes. Hein, parce qu'on a commencé 5 minutes en retard, donc je vais les prendre quand même pour... terminer vite mon exposé. Là, vous avez les chutes chaudières et le maire d'Ottawa nous demande de dessiner une machine pour Ottawa qui pourrait rester à Ottawa à l'issue du spectacle, un an après. Et donc, les chutes chaudières, c'est un site sacré pour les Premières Nations, donc les Amérindiens qui étaient à Ottawa. Et ce site fait l'objet d'un renouvellement urbain. Tout ça n'existe pas à l'époque, mais ça, c'est les chutes chaudières, c'est un site hydroélectrique. Ça, c'est la terre sacrée des Premières Nations. Et Ottawa construit un nouveau quartier. Et on nous demande de réduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette terre sacrée des Premières Nations, c'est là qu'il y avait une usine où on a inventé le pyrolyse. Donc, ça a été un endroit extrêmement pollué. Donc, j'écris une histoire rapidement. Depuis l'aube des temps, les hommes, les animaux vivent en harmonie suivant les règles que la nature impose. Ça, c'est un hommage un petit peu aux Premières Nations qui savaient vivre de cette manière-là. Les peuples fondateurs, donc les Premières Nations, ont toujours respecté ces règles, mais l'homme finit toujours par les enfreindre, répandant alors le chaos, déversant son poison et détruisant la nature. La faune sauvage et les peuples premiers furent les premiers décimés. Donc, la nature est chassée par l'homme. Le poison traversa la terre. En référence au pyrolyse, se répandit sous l'eau et dans l'air, détruisant la vie. Pour faire face à ce péril, les animaux unirent leurs forces et se réfugièrent sous terre, creusant d'immenses galeries. Ils édifièrent des refuges, mais cela ne suffit pas. Un immense incendie alors détruisit la ville. Les grands esprits qui veillent sur l'équilibre du monde unirent... Alors, il y a eu Ottawa a brûlé à une époque, hein, c'est pour ça qu'il y a ces petites références. Les grands esprits qui veillent à l'équilibre du monde unirent leurs formes pour combattre ce fléau. Ils fusionnèrent les grands animaux sacrés en une seule entité si puissante qu'elle pourrait sauver les hommes. Un signe acquis l'hydre d'argent. Dès lors, endormi dans les entrailles de la terre, l'hydre atteint un signe qui marquera son avènement. Évidemment, on prévoit le signe. Et là, donc, j'ai dessiné cette hydre d'argent, une hydre à trois têtes, hein, composée de plusieurs animaux et née de la pollution, mais qui va venir sortir à Ottawa et sauver les hommes. Ça, c'est le projet ne s'est finalement pas fait. Bon, ça, je sais. Par contre, je sais pas pourquoi. Alors, le Minotaure, je crois que vous connaissez. Je vais aller vite. Je vais directement rejoindre Lilith. Je voulais vous parler un peu du Minotaure et de sa première venue à Toulouse, mais là, on n'a plus le temps. Ça, c'est ce qui se passait en 2018. Aujourd'hui, le Minotaure vit près de la halle de la machine, hein, sur le site historique du début de l'aviation civile avec l'aéropostale. Et il y a un mois, hein, on a fait ce grand spectacle autour de le gardien du temple et de la porte des ténèbres, qui a fait couler beaucoup d'encre avant le spectacle, et qui nous vaut pas mal d'insultes sur Internet, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Alors, juste quand même, avant de dessiner La Gardienne pour le Hellfest, hein, qui est un festival de métal, ça, c'est les recherches que j'ai faites, où j'ai imaginé des bêtes à cornes, des hydres, un mi-crabe, là, ici, trois têtes et un crabe. Voilà, ça, c'est mes petits croquis, une espèce d'être squelettique. Et finalement, je dessine ce petit truc qui me dit, ah, c'est ça que j'ai peut-être gardé. Donc, je fais un deuxième, je prends ça, je l'agrandis, et puis je fais mon dessin. Finalement, la tête de bouc ne m'intéresse pas, et je me dis, je vais lui faire quand même une tête humaine. Et c'est comme ça que naît la gardienne des ténèbres. Vous avez ici le deuxième dessin, parce que le premier dessin était beaucoup plus scarifié, et avait une connotation un peu plus vaudou et africaine. Et Ben Barbon m'a demandé de reprendre le dessin parce qu'il pensait que ça ne correspondait pas à sa clientèle, en fait, au festivalier. Et donc, j'ai bardé plutôt la gardienne de signes ésotériques en réduisant un peu les scarifications. Alors, on lui a fait dessiner des bijoux. Ça, c'est, vous avez ici sa boucle d'oreille. Ici, un pendentif qu'elle a sur les poumons qui respire. C'est entre ses deux seins. Et puis, là, une croix retournée sur l'oreille gauche. Elle est en construction d'atelier, donc effectivement, elle est faite de bois, hein, d'acier et de cuir. Ce n'est pas une des plus grandes machines qu'on ait fait. Et je vais terminer sur un petit film qui dure 2 minutes, mais qui nous renvoie à ce qui s'est passé. Et je ne reviens pas sur l'histoire, hein, racontée à Toulouse. La gardienne traverse les villes pour aller chercher des âmes damnées, et elle ouvre des portes des ténèbres pour agrandir son armée. Bon, heureusement, on a Astérion et Ariane là, qui ont bien veillé sur Toulouse, et d'autant plus que comme la ville a été consacrée, ben, tout s'est bien passé. Voilà. Et là, Ariane apparaît sur le dôme de la Grave, Astérion au Capitole et Lilith sur le musée Saint-Raymond. Elle a d'ailleurs tissé une toile. Hein. D'ailleurs, c'est Ariane qui a tissé une toile pour essayer de piéger Lilith. Cette toile va être ouverte par des succubes, qui sont ceux qui se mettent. Et puis, Lilith va charmer, hein, Astérion, qui va tomber fou amoureux d'elle. Et Astérion va lui montrer la ville, va lui ouvrir les portes du labyrinthe. Voilà, c'est l'histoire qu'on a racontée. Une histoire quand même assez contemporaine et d'actualité qui effectivement continue à faire couler beaucoup d'encre. C'est assez étonnant. En 2024, qu'on ait encore un débat là-dessus. Chasse Lilith et l'éloigne d'Astérion, ce qui fait que l'emprise qu'elle a sur lui va disparaître, il va retrouver ses esprits. Il va recevoir ses ailes qui lui donneront un pouvoir supplémentaire. Voilà, avec ça, je ne vous ai pas dit pourquoi les mythes m'intéressent, mais bon. J'ai oublié de le faire, en fait. J'étais parti dans les histoires. Non, j'aime la mythologie et le mythe parce que le mythe, c'est un mensonge, un merveilleux mensonge assumé. Et assumé tel quel. Donc, c'est-à-dire qu'il offre à n'importe quel citoyen de s'approprier le mythe, de le transformer. Ce que fait pas la religion. La religion est dogmatique et donne une vérité. Qu'est-ce qu'elle est? Ceux qui veulent y croire, pourquoi pas. Mais donner une vérité fixe et qui ne peut pas évoluer, c'est enlever la capacité à l'homme d'évoluer avec son temps et d'enrichir. Parce que les mythes, au final, ils n'ont pas bougé. Hein. Ce qui est sous-jacent sur les mythes, c'est rester exactement la même chose, mais ça prend différentes formes. Voilà. Et c'est pour ça que les mythes me fascinent. Et j'ai tellement dessiné d'animaux que maintenant, le fait de les mélanger, on peut prêter le caractère de l'un au caractère de l'autre. Et ça permet de raconter des histoires un petit peu dingues. Voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Voilà, merci de votre écoute. J'ai débordé un peu, là. Voilà.
Même audio, une mémoire sonore.
Merci à vous. On a le temps pour quelques petites questions, peut-être
si... enfin, moi, j'ai le temps, mais c'est à vous de me dire. Hein.
Bonjour, merci beaucoup. Vous avez raconté l'histoire de la première girafe. Et comment vous en êtes arrivé là, avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant?
Avant, il y a eu pas mal de... Il y a eu un géant qui a été vraiment un tournant dans ma vie professionnelle et ma carrière de constructeur. J'ai dessiné ce géant et construit et dirigé en spectacle pour la compagnie Royal de Luxe dans les années 94, je crois. Et ce géant, on était à Rio, on m'a demandé de faire un géant de 5,50 m qui était un peu hydrocéphale, un espèce de frix. Et moi, j'ai dit non, on va faire 9 mètres et on va dessiner un personnage humain au canon de Léonard de Vinci, quoi, vraiment, pour qu'on puisse se reconnaître. Et j'ai choisi des matériaux comme à l'époque, ça avait coûté, fabriquer le géant, ça avait coûté 150 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 3-4 millions d'euros, une construction comme on l'a fait. Mais c'était, j'assumais le bois, le cuir, la machinerie à vue, et je me suis rendu compte, en fait, là, de la force, en fait, de ce que j'étais en train de développer comme langage, hein, avec les matières, avec le mouvement. Et ça a été vraiment, pour moi, comme ça a été un carton international, ça a été un point de départ. Et très vite, on s'est intéressé à moi et on m'a proposé des projets. La plupart des projets naissent de rencontres et de propositions. Je ne dessine pas pour moi. Je dessine vraiment en fonction des lieux que je raconte des histoires. Je visite, je vais voir, voilà. Et avant, il y a eu plein de choses, hein, quand même, parce que la machine date de 99, et avant, on a fait beaucoup, beaucoup de manèges et différents objets.
Pour faire écho à monsieur, d'ailleurs, c'est quoi, enfin, vous êtes connu dans le monde, vous êtes reconnu, c'est quoi la suite?
Ben, je vais bientôt mourir, quoi. Oui, j'ai 61 ans, quand même, donc la suite, elle va être assez courte, il y a peut-être 10-15 ans, là. Une petite fenêtre de tir, mais ben, là, on est en train de fabriquer le Varan. Puis voilà, notre président est à Singapour, ou peut-être qu'il peut être intéressé par l'Arbre-Héron, par exemple. Et donc, on a comme ça des projets comme ça, qui sont sous-jacents, sur lesquels on travaille. On est en train de prévoir de jouer. On prépare le spectacle pour Calais en 2025. On développe la halle de la machine et ses projets. On essaye de faire venir plus de monde, pour qu'on ait plus de moyens pour faire des choses gratuites. Et ça nous plairait beaucoup, que le Vitora soit plus nombreux. Voilà, on est vraiment dans une belle dynamique. Et puis je pense que même si, quand je vais moi partir, l'histoire continuera. Parce qu'il y a vraiment une équipe avec qui je collabore depuis maintenant 20 ans. Voilà. Oui.
Merci pour cette présentation. Du coup, en fait, moi, je le découvre. Hein, donc je vois, comme vous l'avez dit, que d'abord, ça vient d'une passion de l'observation du vivant, comme vous l'avez dit au début, la nature. Et après, voilà, c'est passé un peu vite, comme vous l'avez dit, sur la dimension narrative, mais j'entends bien sur la dimension mythologique. Ce qui vous intéresse, c'est justement de faire ce déplacement par rapport pour inventer des histoires. Mais alors, du coup, ma question, c'est quand vous allez justement vous approprier des mythes, comme vous avez parlé de ce long mât en Chine, ou prenons le personnage de Lilith, qui en fait a une existence dans la mythologie hébraïque. Mmh. Quand vous, du coup, vous gardez, enfin, en tout cas, les commanditaires de Hellfest mobilise cette forme symbolique qui s'inscrit dans une histoire et qui après vous vous appropriez donc le personnage en la réintégrant dans une nouvelle narration. Mais ce personnage et ce prénom est chargé d'une force symbolique très forte et vous la réintégrez dans un narratif qui redouble en fait peut-être aussi la charge mythologique de Lilith, c'est-à-dire le féminin diabolique. Et donc la question c'est comment en 2024 ou justement aujourd'hui 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Allez-y, pouffez. En attendant, il y a des personnes qui sont...
C'est intéressant.
Attendez. Le symbolique produit du réel. Non, mais on n'est pas forcément à l'école. On n'est là pas que pour poser des questions. On est aussi pour échanger avec un artiste qui a une vision, qui a une œuvre et qui a des effets dans l'espace public. Donc la question, c'est que voici une réflexion qu'on a menée, qu'on peut se poser, parce que vous ne pouvez pas débarquer avec des gros moyens en ville et ne pas assumer, vous l'avez déjà vécu sans doute, mais en fait, on est là aussi pour échanger.
Tout à fait.
On n'est pas là juste pour être fasciné et être sidéré par du grand
spectacle.
Ma question est celle-ci, si je la formule un peu plus... en effet, donc voilà, est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est de l'inconscience? Ou est-ce que derrière, vous voulez réassigner le féminin au diabolique, au machiavélique, à ce qui doit être détruit, puisque à la fin, en fait, Lilith est chassée, et c'est normal, puisque dans les mythologies, c'est le féminin non domestiqué, c'est le féminin qui n'a pas assumé la domination patriarcale, et là, donc elle incarne dans votre narration le mal, et c'est qu'il faut... détruire. Je suis désolée. Donc, comment vous assumez ça? Comment vous avez décidé avec votre petit groupe?
Voilà.
Merci beaucoup. Merci par avance.
La question est très simple. Alors, la gardienne des ténèbres n'est pas Lilith au départ. C'est la gardienne des ténèbres. J'ai dessiné comme un Cerbère, en fait. Un être directement inspiré de la mythologie. D'ailleurs, je ne connaissais pas Lilith avant de lui prêter ce nom-là. Et c'est une collaboratrice, au moment d'écrire l'histoire, Lilith devait traverser la région Pays de Loire, que le Lilith, ça lui irait bien. Et à ça, j'ai plongé dans ce que représentait Lilith dans la religion hébraïque, effectivement, mais pas que, parce que Lilith, elle apparaît sous différentes formes dans la religion grecque, ce qu'incarne la femme, comme ça, dont on a peur. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement dans l'histoire, c'est que Lilith, elle est très séduisante, elle est belle, elle est puissante, elle est même plus puissante que n'importe qui. Et Lilith, dans la religion au moins catholique, ensuite après la religion hébraïque, elle incarne la femme, c'est la première femme d'Adam. Donc c'est l'égale d'Adam. Et elle ne s'est pas laissée faire, elle a tenu tête à Adam, elle ne s'est pas soumise. Et donc elle a été chassée du paradis à l'époque. Donc là-dessus on se rejoint. Et à partir de là, comme elle était chassée du paradis, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Et comme on a aussi inventé l'enfer, c'est pratique, c'est l'endroit où on peut la mettre. Et donc, elle s'est mise à incarner comme ça une peur, en fait, peut-être masculine. Et on a créé avec une côte d'Adam, donc un sous-produit d'Adam, une femme, Ève, qui, elle, est docile et qui est soumise. Voilà. Donc, Lilith, c'est ça qu'elle incarne. C'est pas du tout ce que vous dites. Je lui prête pas du tout ce que vous voulez lui faire dire. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Et heureusement que Lilith n'a pas gagné, là, parce que sinon, déjà, j'ai toutes les églises sur le dos Alors, Lilith n'est pas détruite. Hein. Lilith passe de ville en ville et elle continue. Puis on aura peut-être la chance de la voir réapparaître. Mais c'est très intéressant. Moi, je suis assez content de votre réaction. Je suis assez content de votre réaction parce que vous me prêtez une attention que je n'ai jamais, que je n'ai pas. Mais c'est drôle, vous l'inventez, en fait. C'est dans votre tête. Ça. Mais c'est sympa, hein. Mais moi, jamais j'ai imaginé que Lilith puisse perdre. Donc, c'est votre histoire à vous. Et c'est l'intéressé du mythe. Sécurité. Bon. Bon, on va laisser le débat continuer.
Sinon, celle qui permet que tout se passe bien, c'est Ariane, qui est une femme. Donc, Ariane, qui est une femme, permet de sortir de ce problème qui se pose. Donc, au final, est-ce que... Non. Mais en fait, ça aurait pu être un homme, une femme. Est-ce que c'était important, là? Non, c'est juste que là, c'était une femme. Et je pense que... Non, c'était pour répondre à madame. Donc, c'est une femme qui règle le problème. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait d'une intention malveillante envers les
savez,
femmes.
Vous avez raison, dans toute la filmographie, dans toutes les histoires, il y a toujours un gagnant et un perdant. Des fois c'est une fille, des fois c'est le bien, des fois c'est le mal qui triomphe. C'est le jeu de la narration et du théâtre. Il n'y a aucun message du type de ce que vous voulez me prêter à faire passer dans l'histoire. Il y a une forme de légèreté, justement, et j'assume cette légèreté parce qu'on est là pour se faire plaisir, pour voir du beau. Et c'est surtout ça, la question, ce qui m'intéresse.
Bonjour, moi je vais rester beaucoup plus léger. J'ai eu la chance de partager l'expérience 2018, l'expérience 2024. Et je voudrais simplement vous rappeler tous les yeux que l'on a vus s'émerveiller devant ce spectacle et vous dire merci.
Ah ben merci beaucoup. C'est vrai qu'on a passé un beau moment à Toulouse avec ce spectacle et voilà, c'était vraiment un temps exceptionnel. Et d'ailleurs, je vous remercie en tant que spectateur d'avoir joué le jeu et le rôle comme ça, malgré la pression et la densité humaine. C'est super.
On a peut-être temps pour une toute dernière question.
Bonjour. Je me demandais, en termes de temps, au moment où les premières demandes, vous faites une première rencontre sur « Tiens, ce serait bien de pouvoir faire ça ». Donc prenons le dernier spectacle, par exemple, enfin le dernier show des trois jours. Entre le moment où vous êtes dit « On va faire une deuxième partie » et le moment où vous étiez effectivement dans les rues, le temps que ça prend, en fait, je suis curieuse.
Le maire nous a prévenu un an à peu près avant et les services voulaient prendre ce temps de préparation. Parce qu'effectivement, il y a l'élagage des arbres, le mobilier urbain, la sécurité qu'il faut prendre en compte. Et c'est un temps très long de préparation. Après, réellement, une fois que les machines sont construites, on a à peu près 3 semaines de répétition, 2-3 jours de spectacle, 5-6 jours de démontage, et hop. Les répétitions, on les a fait à la halle, devant la halle, sur la piste aéronautique. Voilà. C'était un peu serré, mais ça fait 40 mètres de long, il y a quand même la distance. Mais pour le bonheur des voisins qu'on a réveillés la nuit, encore une fois.
Merci.
Merci.
Merci à tous. Merci. Merci à vous, François, pour cette conférence. Je tiens également à remercier très rapidement la Halle de la Machine, en particulier Fanny Poitevin, l'équipe de la médiathèque Cabanis, en particulier Lola Mortin, Jeanne Lotelier et Sylvain Loiseau. Et place maintenant à une signature de vos ouvrages à l'extérieur.
Oui, voilà, il y a la librairie Ombre Blanche qui a sorti quelques ouvrages. Je peux, si ça vous intéresse, les dédicacer. Merci à vous.
Même audio, une mémoire sonore.